Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Mercredi 6 novembre 2024, ici Alex Baillargeon pour vous présenter cette édition du 9. Nous y sommes en ce lendemain d'élection finalement pour parler de l'actualité des dernières 24 heures et un petit peu plus aussi. J'ai avec moi Sarah et Nicole qui étaient autour de la table. Salut Sarah.
Salut Alex.
Alors, bon, voilà, lendemain d'élection, mon Dieu, de surprise en surprise, disons ça comme ça, pour la dernière soirée électorale. On avait prévu, selon à peu près l'avis de tous, qu'il y allait avoir une compétition serrée et que normalement, on devrait être en train de continuer à discuter de qui est en avance et qui pourrait prendre le pouvoir. Mais finalement, surprise des plus totales hier soir lorsque Donald Trump a fini par remporter les 7 clés de la Maison-Blanche, soit la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Wisconsin. Il est toujours en avance dans le Michigan avec un peu plus de 100 000 voix d'avance. En Arizona, avec 100 000 également. Et le Nevada avec, dans ce cas-ci, 59 000 d'avance. Fait que c'est pas mal réglé pour le Nevada. Il ne fallait pas que ni un ni l'autre en échappe trop pour remporter l'élection. Et puis, ben, pour Kamala, ça a été l'effondrement de l'avis de plusieurs. Ça a été d'ailleurs surprenant qu'il y ait une aussi grande disparité. Pour avoir suivi la soirée, malgré tout un peu, la Pennsylvanie était l'État qu'il ne fallait surtout pas échapper. Et ça a été au coude à coude tout au long de la soirée. Peut-être aux 5 minutes, la couleur changeait sur la carte. On était vraiment dans une situation assez inédite. Mais je pense que c'était autour de minuit, là, vraiment, la Pennsylvanie prenait son avance avec le vote républicain pour finir sa course avec aussi un petit peu moins de 200 000 voix d'avance avec 47,3% des urnes et des suffrages comptabilisés. Donc, c'est assez réglé dans le cas de la Pennsylvanie. Toi, Sarah, as-tu quand même suivi ça un peu hier soir? Étais-tu un événement public comme plusieurs l'ont fait, entre autres à Sherbrooke, hier soir?
Oui, bien sûr. Bien, j'ai suivi les élections hier soir, mais en fait, je vous avais tous invités pour aller au tapageur.
C'est vrai.
Puis finalement, je ne suis même pas allé, donc je suis resté chez moi. Des fois, la batterie sociale meurt, il y a des imprévus et tout. Puis j'ai vraiment trouvé que c'était une soirée qui était agréable, puisque dans les deux camps, les partisans de soit Harris ou Trump avaient confiance envers leur chef, en fait, les candidats qu'ils supportaient. Puis ça donnait aussi un bon signe que la démocratie aurait été restaurée, puisqu'on parlait souvent récemment, plutôt au niveau médiatique, que la démocratie était en friction, il y avait beaucoup de conflits, on a beaucoup parlé de polarisation, mais de voir que les gens ont confiance en leur propre chef, leur propre gouvernant, puis c'est un bon signe, puisqu'avant, on y avait aussi le vote stratégique, on disait on va voter pour Biden parce que c'est un démocrate, mais est-ce qu'on l'aime, est-ce qu'on l'apprécie, ça c'est une autre question, mais autant dans les deux camps, je trouve, c'était à Washington, les partisans démocrates de Kamala Harris, puis étaient, ou aussi dans l'État de Washington, pardon, étaient très prêt, puis il croyait aussi en la cause. Puis le simple fait d'y croire, ça peut donner, dans les prochaines élections, dans 4 ans, d'autres résultats qui vont être aussi serrés, peut-être un renversement. Puis dans les élections de mi-mandat, bien, ça va encore une fois reconfirmer ou des fois revalider, revérifier les deux chambres, donc le Sénat puis la Chambre des représentants, puisqu'il y a aussi l'élection des sénateurs. Puis en ce moment, le Sénat ici serait en couleur rouge républicain. Puis comme on avait expliqué auparavant, bien, la couleur de la Chambre va aussi grandement affecter le pouvoir décisionnel du président. Donc, c'était surtout ça qui avait retenu mon attention. Puis c'était aussi, oui, on pouvait parler de peut-être de crainte aussi de certains voteurs. certaines personnes qui étaient interviewées, ils allaient dire « Ah, moi, je suis en Floride, puis j'ai peur déjà d'aller à l'aéroport parce que à cause du port d'armes, des trucs comme ça. » Mais je pense bien que d'un sentiment général, de la population générale, juste le fait que les gens aient autant participé, parce qu'on n'a pas encore les taux de participation, mais déjà par les votes anticipés, puis par les gens qui se sont présentés aux urnes pour aller exprimer leur droit, en fait, qui était d'aller voter, eh bien, je trouve que c'est un bon signe encourageant. Puis, on parlait souvent aussi, eh bien, ça, c'était surtout parlé dans les médias aussi, que certains groupes allaient moins voter. Il y avait aussi les jeunes qui allaient moins voter. Là, les jeunes allaient voter. Il y avait des jeunes progressistes qui sont allés voter, notamment pour Harris. Il y en a d'autres aussi qui votaient pour Trump. Ça avait été expliqué que, surtout les jeunes hommes, voyaient en lui un businessman aguerri, puis c'était surtout ce caractère plus économique qu'allait voir sur Trump, ou davantage progressiste, comme j'avais un peu mentionné, sur Harris. Puis ça l'a juste... En fait, ça l'a juste replacé l'échiquier qui a plus... Bien souvent, il n'y a plus vraiment d'électeurs. Comme auparavant, on va dire, c'était un... Ah, c'est un conservateur, il va être religieux, il va être plus à droite. Bien, la droite et la gauche américaine vont se fragmenter, puis un des indices clés, peut-être, pourquoi Kamala a perdu des votes, c'est peut-être dans la gauche sociale un peu trop progressiste, même pour les gens progressistes aux États-Unis, parce que j'entendais une femme, elle, c'était une femme qui avait souvent voté démocrate, puis elle disait « Ah, moi, j'ai voté républicain, parce que je trouve que le programme, sur certains aspects, les droits LGBT, un peu tout, sont poussés trop loin par le Parti démocrate, tandis que de l'autre côté du républicain, on n'en parle absolument pas. »
Je peux comprendre. C'est ça, comme tu le dis, c'est tellement fracturé en ce moment aux États-Unis. On a tellement la... Si on est pour un, on est pour un à 1000% et on est contre l'autre à aussi 1000%. Mais voilà, ce sera de voir si le prochain président sera capable de réunir ces États-Unis-là qui sont complètement fracturés. Ben, comme on continuera après la petite pause aussi à décortiquer un peu les résultats, c'est pas complètement terminé en ce moment. Si je regarde rapidement comparativement aux chiffres de la dernière fois, on a un petit peu moins de votes. Évidemment, c'est pas fini de dépouiller parce que à la dernière élection, Joe Biden avait dépassé le 81 millions de voix. Donald Trump est à 74. Présentement, il sera à 71 et Kamala Harris à 68. Donc, c'est sûr que dans le cas de Kamala, c'est complètement une chute catastrophique au pourcentage de vote. Mais encore une fois, il reste plusieurs États qui n'ont pas fini d'être comptabilisés. Et dans le cas de Donald Trump, ben voilà, il a remporté les États clés pour s'assurer une victoire lorsque, bien évidemment, tout sera terminé d'être dépouillé. Qu'on te pause, comme je le disais au retour, on continue à parler de cette élection américaine ici même sur les ondes de CFAQ 88.3. C'est l'émission Le 9 qui s'installe jusqu'à 11h. C'était un mix sonore des plus parfaits. Trompe-l'œil de bon enfant qu'on vient d'entendre sur les ondes de CFAQ. Comme on le disait juste avant la petite pause, en ce moment, Donald Trump, oui, est en voie de remporter la présidence, mais est aussi en voie de remporter toutes les autres instances gouvernementales, soit le Sénat et... Pour l'instant, la Chambre des représentants, il est en avance. La surprise qui a été commise du côté du Sénat, il y avait une égalité 50-50. Plus de démocrates étaient en réélection également lors de l'élection présidentielle. Les républicains en avaient un petit peu moins. Où il y a eu des surprises, c'est au Montana, en Ohio et en Virginie-Occidentale, où ça a été... 3 gains républicains, ce qui fait en sorte que les représentants du Sénat sont maintenant 52 confirmés pour les républicains, ce qui veut dire une majorité, 42 pour les démocrates, 28 démocrates n'étaient pas en élection et 38 ne l'étaient pas du côté républicain. Mais voilà, donc tous les sièges républicains qui étaient en élection sont reconduits et les 3 gains du côté, ou plutôt... en dépend des démocrates, c'est-tu le bon terme en tout cas. Ils ont réussi à faire des gains dans ce cas-ci. Et sinon, comme je le disais, du côté de la Chambre des représentants, il y avait une bonne partie de ceux-ci qui étaient également en élection. Présentement, les républicains sont en avance avec 197 représentants contre 177 démocrates. Il en faut 218 pour remporter l'élection. Ce que ça veut dire, c'est si Donald Trump remporte réellement 100% de tous ses paris, il aura le loisir de faire ce qu'il veut pendant les deux premières années de son mandat, puisqu'il y aura des élections de mi-mandat, comme on les appelle, où, justement, la balance des autres représentants au Sénat et des autres représentants à la Chambre des représentants, eux, vont tous être en élection aussi, quoique il y en a aussi répartis un peu dans les années, mais la plus grosse partie se fait au mi-mandat. Et à ce moment-là, peut-être, est-ce que les gens décideront de peut-être enlever un petit peu de pouvoir à Donald Trump ou lui confirmer ces pouvoirs-là pour deux autres années supplémentaires et lui donner vraiment 4 ans de plein pouvoir, c'est une possibilité. On ne sait plus quoi s'attendre des Américains aujourd'hui. Voilà pour ça. Donc, au moins de confirmer de janvier prochain au mi-mandat de 2026-7. Vu que c'est 6 ou 7, là, je suis en train de mélanger.
J'allais dire 7, j'en suis absolument pas sûr. Mais c'est
non, parce que c'est 24. Inauguré, c'est l'élection de 24 pour l'élection de 28, ça veut dire 2026, okay. 26, même si son prise de pouvoir est en 25. On va y arriver. C'est mercredi matin, tôt pour tout le monde. Sarin, on a parlé de Paris. Je parlais de Paris et toi aussi, tu as suivi ça parce qu'on a ajouté une nouvelle science pendant ces élections-là et c'est les sites de Paris pour peut-être déterminer le gagnant de l'élection. Eh bien, dans ce cas-ci, les parieurs ont eu la main chanceuse, on peut dire ça comme ça.
Oui, exactement. J'allais vous dire, en fait, si, en ce qui a trait tout à la question monétaire, hier, on a entendu aussi lors de l'élection que c'était une somme de 10 milliards de dollars qui aurait été investie seulement pour les campagnes publicitaires des deux partis, puis pour les rallies, pour les regroupements aussi. Mm-hmm. Puis on le sait que la majorité d'entre eux se sont faits vers la fin ici, notamment en Pennsylvanie, l'État clé, un État ici qui est un État pivot. Puis ça a été à plus d'un milliard de dollars qui aurait été investi autant par les deux parties. Donc on sait que l'argent a quand même une influence pour ces résultats. Puis ce que je voulais aussi parler de lundi, qu'on n'a malheureusement pas eu le temps, bien, c'était un site de paris sportifs. J'en avais trouvé un en particulier, puisque je trouvais qu'il était particulièrement intéressant. C'était un site qui s'appelle Calchi. C'est un site américain et puis il faut être citoyen américain pour pouvoir parier sur les élections.
Ouais, ouais, ouais.
Puis ça va être des paris qui vont être extrêmement détaillés. Ça peut aller de quelque chose de très simple, soit qui va être le prochain ou la prochaine présidente, à qui va remporter dans quel état, de quelle couleur va être le Sénat, de quel. Donc ça peut prendre une ampleur assez large, un volet assez large. Puis ça avait semé des inquiétudes, notamment parmi des enseignants ou des spécialistes en la question de la démocratie, puisqu'il semblerait encore que ça pourrait avoir un impact sur les votes, un impact sur les résultats, puisque les gens vont aller voter en fonction, ils vont voir, ah bien si Trump a 54% de chance de gagner, ou si 54% des gens ont voté. En fait, on parie pour Trump, bien ça va avoir une incidence parce qu'on veut rentrer dans notre argent.
Ouais.
Puis ça avait été des évaluations qui avaient été faites, bien sûr, avant les élections. Donc, par la suite des élections, bien, est-ce que ça va avoir un grand poids? Parce qu'on parlait aussi hors onde que le mouvement MAGA était très, très grand, puis il y avait un réel pouvoir d'influence avec tout l'argent qui était investi.
Mm-hmm.
Puis sur ce site-là, c'était plus de 150 millions là, qui avaient été gagés. Donc,
quand même.
Puis c'est basé sur les événements récents qui se sont passés. Donc, quand Trump a dit que les gens, les immigrants illégaux ou les immigrants ici à Haïti mangeaient des chats et des chiens, bien là, ça a fait reculer sa popularité. Mais là, quand Kamala va sortir pour aller parler de droit de l'avortement et ainsi de suite, ça va détruire le balancier dans ce sens-là. Mais qu'est-ce que les experts et les spécialistes, donc les enseignants ici, ont dit à propos de ces dix paris sportifs, paris électoraux, pardon?
Mais ça ressemble à ça, parce que comme tu disais, on peut voter sur à peu près tout ce qui est possible dans l'élection, un peu comme par exemple au Super Bowl, on peut même parier sur la couleur du Gatorade de l'équipe gagnante. Fait que tu sais, on est vraiment dans des trucs ultra précis, comme tu dis. Oui.
Puis j'allais dire, c'est quelque chose aussi qui est ancré dans la culture américaine, le pari,
ah, ben oui,
le gamble. tu disais aussi, pour parier de la couleur du Gatorade, des fois, c'est ça peut être des détails. Des fois, c'est est-ce que le joueur va jouer ce match-là, va jouer cette séquence, va faire un touchdown, par exemple, au football.
Bien oui, là, à quelle heure le premier botté, puis non, tu sais.
Oh, c'est vraiment dans le détail, puis c'est quelque chose qui s'est transmis, c'est complètement calqué aussi dans les élections. Puis, c'est ça, selon certains experts qui étaient plus en désaccord avec cette pratique-là, puis ça a été validé, en fait, que la pratique de paris électoraux serait légale, puisqu'on parie pas, on n'investit pas directement pour une personne, mais bien sur une plateforme qui va décider. Donc, c'est un peu un petit hack, là, si on se permet.
Ouais.
Puis c'est juste de dire, bien, on éloigne l'argent des votes, on essaie d'éloigner, puis on essaie que ça n'aille pas d'influence non plus, parce que ça donnait des cas de figure, des scénarios. Donc, vous êtes en famille, vous êtes à 8 dans une salle, il y a quelqu'un qui vous dit « Moi, j'ai parié pour... » J'ai littéralement parié. Il dit pas « Je vais voter pour », mais le pari, ça accentue aussi l'effet de peut-être de persuasion pour les, les gens. Là, vous voyez quelqu'un de riche qui rentre dans une salle pour vous convoquer, il va vous dire, une salle de, je sais pas, 100 personnes, il va vous dire hey, « Moi, je suis vraiment convaincu que Kamala va gagner, par exemple. » Il dit « J'ai investi 10 000 $ Puis il va donner ses arguments, mais vous allez être beaucoup plus enclin, d'après moi, à faire ce choix-là. Donc, ça peut manier aussi l'esprit des gens peut-être, j'allais dire vulnérables, mais aussi jeunes ou des gens qui ne sont pas encore convaincus par cette publicité-là, par les plateformes de paris.
Tu l'as dit aussi, puis on le remarque, là, en ce moment, il y avait... au sortir des votes aux États-Unis, on est très fort aussi sur demander aux passants, demander aux gens pour qui vous venez de voter, pour les rentrer. Fait qu'on est capable de savoir à peu près l'électeur type. Et ce qu'on disait, c'était que, bon, le vote blanc est allé quasiment entièrement à Donald Trump. Le vote noir était divisé en deux. Les femmes ont voté pour Harris. Les hommes ont voté majoritairement pour Trump. Le vote latino, ça a été beaucoup plus pour Harris parce que, justement, les propos qui ont été tenus à un des rassemblements de Donald Trump en les traitant de vidange. Non. Fait que, tu sais, tout a réellement influencé cette élection-là. Puis, comme tu parlais des jeunes tout à l'heure, qu'il y a une recrudescence chez les jeunes hommes américains qui ont gobé l'histoire de succès de Donald Trump, même si on sait que c'est des, il a réussi à faire faillite à des casinos, tu sais. Fait que, tu sais, oui, il y a peut-être un instinct, ou en tout cas, il donne l'impression qu'il va tout gérer, mais c'est le commentaire qui revient le plus, et c'est ce qu'on peut reprocher aussi à Kamala Harris, c'est que pendant qu'elle a dit que la démocratie va être en péril, les avortements, nanana, ce sont des trucs importants, mais ce que les Américains voulaient entendre, c'était qu'est-ce qu'elle allait faire pour l'économie.
Exactement.
Son plan était peut-être backé, ou en tout cas, était peut-être supporté, pour utiliser un terme, ben même supporté, je pense que c'est un anglicisme dans ce cas-ci, mais... Que Wall Street était de son bord, trouvait que son plan était le meilleur. Est-ce qu'elle l'a mis assez de l'avant? Le point d'interrogation est là, parce que Donald Trump, lui, il est juste arrivé en disant « Vous allez avoir de l'argent, je vais redorer l'Amérique, vous allez regagner ce que vous avez perdu. » Je vais, même dans son discours d'acceptation, il a dit « Je vais réparer l'Amérique. » Fait que ça, c'est peut-être le discours qui a justement fait la différence comparativement à Kamala qui, bon, oui, avait des enjeux tout aussi importants parce qu'effectivement, il y a des trucs qu'il va falloir surveiller parce que si justement, ben, en fait, il contrôle déjà la Cour suprême, il aura le loisir de remplacer les derniers les juges démocrates par d'autres juges républicains. Il y en a un d'ailleurs qui doit être élu prochainement. Ça va faire en sorte que oui, il peut y avoir des trucs sur les avortements qui vont revenir. Ça va revenir dans l'actualité, c'est sûr et certain, parce que c'était déjà un enjeu. Il se vantait d'avoir défait Roe contre Wade. Fait que rien ne va l'empêcher de mettre ça à la grandeur des États-Unis. Mais ça, c'est un dossier parmi tant d'autres, parce que, justement, ce qui a percolé, c'est l'économie.
Puis c'est aussi dans le choix de chaque candidat sur quoi ils vont plus s'attarder.
Ah,
puis
tout à fait.
C'est... Exactement comme on a pu voir aussi lors des élections provinciales ou même on y anticipait pour les élections, prochaines élections fédérales, c'était davantage qu'est-ce qu'on va pouvoir s'acheter à l'épicerie avec 100 $ que quelqu'un qui va dire « Ah, c'est tout des violeurs, des racistes, ils volent nos emplois. » Puis c'est vraiment intéressant d'entendre parler de ces propos-là hier parce que c'est comme si c'était devenu normalisé aussi. C'était ça un peu la réflexion, c'est de se dire, on est dans une scène politique, c'est une arène, c'est ouais. Tous les coups un peu sont permis. Donc, même l'histoire de manger des chats, des chiens, ça passe un peu par-dessus la tête de ceux qui sont davantage convaincus. Mais si vous avez déjà une méfiance envers Trump, vous allez encore plus avoir une méfiance, ce qui était le cas, parce que c'est pas vrai, en fait. Puis, c'est surtout aussi dans cette perspective-là que Trump s'est présenté comme... Il a beaucoup joué sur les cartes de l'économie puis sur la carte de la sécurité. Puis, selon les experts, ça va être davantage quelque chose qui est une question de perception, puisqu'on parlait que les années sous Biden, bien, l'économie se portait quand même bien.
Mm-hmm.
Puis, aussi, j'allais parler d'un phénomène ici qui s'appelle peut-être c'est le recency bias, là, désolé pour l'anglicisme, mais des perceptions que c'est comme si notre bulle, nos opinions, tout ça, se prenait place immédiatement. On fait un peu... On se méfie un peu de l'histoire, on le met de côté, mais c'est dans le sens aussi que... Bien, l'inflation, ça n'est pas d'une seule personne, puis c'est phénomène qui va...
Mais ça, justement, encore une fois, il disait que c'était la faute de Biden, mm-hmm. autant qu'en ce moment, au Canada, c'est la juste inflation.
Exactement.
Même si, de toute façon, en ce moment, ça remonte naturellement, parce que, bon, la pandémie s'est terminée, on est rendu pratiquement 5 ans après, fait que, oui, il fallait que ça redevienne à des trucs qui se peuvent, mais de toute façon, à toujours marteler le même clou de « c'est la faute de l'autre, mmh. il a détruit le pays, il a jeté l'économie à terre ». Oui, c'est encore une fois, c'est que maintenant qu'ils vont prendre le pouvoir, est-ce qu'ils vont réellement être capables de faire une si grosse différence que ça? Ne serait-ce qu'en redonnant de l'impôt, parce que ça, c'est toujours vendeur de dire « je vais vous redonner un chèque de vos impôts », mais après ça, c'est des coupures qui vont être à prévoir. Autant exactement. Du côté américain que du côté canadien. Aussitôt qu'on dit « oui, on vous redonne votre argent », on le voit en ce moment au provincial avec toutes les coupures. Pas les coupures, mais les chèques qui ont été redonnés de 50$, 100$ d'un an de François Legault, bien aujourd'hui, c'est des classes en francisation qui ferment tout en disant que l'éducation, c'est donc important. Fait que, tu sais, ça va rapidement. Là, oui, c'est beau sur le coup de voici 500$, mais ce 500$, il n'est pas en ce moment en train de faire quelque chose d'utile mm-hmm. au gouvernement, ou en tout cas, tenter de faire quelque chose d'utile parce que c'est pas tout le temps bien dépensé. Mais voilà, ça, c'est pour l'aspect peut-être plus local.
C'est ça, tu disais aussi Trudeauflation. Bien là, c'était Bidenflation. C'est extrêmement simple. C'est pourquoi qu'on n'est pas capable de dépenser notre argent? Ah, bien, c'est la faute d'une seule personne, bien sûr.
Voilà.
Mais l'économie, c'est tellement compliqué, là, certains aspects.
C'est plus compliqué que seulement une personne qui est en charge parce que. Oui, ils sont tombés dans, justement, la pandémie, ils sont tombés dans le fait que tout était plus au ralenti. Mais voilà, là, ça tend à redevenir un peu plus normal, ou en tout cas un petit peu moins contraignant que ça l'était, mais ils n'ont pas fait plus quelque chose de si extraordinaire que ça non plus. Là, oui.
Ça a été aussi de faire il y a une promesse aussi à Trump que ce serait d'imposer des barrières tarifaires ici.
Ah, il va en avoir.
20%. Sur toutes les importations qui vont rentrer aux États-Unis, dont celles du Canada. Puis on est vraiment interdépendant avec les États-Unis. Je disais davantage que le Canada est dépendant, mais les États-Unis aussi sont dépendants. On pense à la région des Grands Lacs, région de Windsor, ici en Ontario, bien, la ville de Windsor, puis Détroit, c'est des centaines
de milliers de personnes. Ils sont liés, là. C'est quasiment la même ville.
L'industrie automobile, l'industrie métallurgique. Donc, d'annoncer ça, qu'est-ce que ça va faire pour nous ici? Est-ce qu'on va se tourner vers d'autres partenaires, même malgré... C'est ça ici qui va être à voir dans le futur, parce que, comme ça avait été dit aussi, on vend beaucoup de ressources naturelles, de pétrole,
voilà.
D'exploitation. On pense aussi au pipeline qui avait été annulé entre la Colombie-Britannique qui mm-hmm. se serait rendu jusqu'en Louisiane. Tous des projets comme ça. Donc peut-être que les rapports bilatéraux ici entre le Canada et les États-Unis vont être revérifiés. On va peut-être être plus méfiants et se tourner vers des pays qui sont géographiquement pas proches, mais qui vont être davantage prêts à collaborer avec le Canada.
Bien, complètement, c'est à prévoir, parce que tu l'as dit, tu sais, des restrictions, des augmentations de coûts pour nos exportations, c'est pas bon.
Mm-hmm.
Mais aussi pour les Américains, leurs importations, c'est pas bon non plus, parce que justement, peut-être qu'ils payaient un petit peu moins cher, parce qu'en plus, le dollar américain est meilleur que le dollar canadien. Fait qu'eux, c'était une économie, mais là, tu rajoutes le pourcentage que Donald Trump veut mettre, ça annule finalement l'économie du dollar fort américain. Fait que, est-ce qu'ils vont après ça rester sur eux, de vouloir être beaucoup plus protectionnistes comme ils l'étaient déjà dans les dernières années, mais est-ce que ça va rajouter une couche? Probablement. Mais voilà, c'est ça, c'est tellement de petits facteurs qui vont faire la différence. Et puis, contrairement justement à... J'écoutais, je pense que c'était une ancienne représentante aux États-Unis, justement, économique, qui disait, tu sais, entre Donald Trump et Kamala Harris, tu sais, oui, c'est difficile à gérer avec les États, mais disons que si ça avait été Kamala, ça aurait été beaucoup plus prévisible. On est capable de mieux prévoir avec un gouvernement démocrate, tandis que dans ce cas-ci, avec un gouvernement de Donald Trump surtout, qui, du jour au lendemain, sur Truth Social ou sur Twitter, il va aller dire « Ouais, non, finalement, ça, j'aime pas ça, fait qu'on laisse faire. » Comme il l'a fait, par exemple, avec le G7 ici au Canada, en partant dans son avion, Justin Trudeau, je l'aime pas. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est qu'il est tellement pas prévisible que c'est difficile pour plusieurs économistes de prévoir de quoi ça va avoir l'air dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, que c'est ça, ça va être du au jour le jour. Puis ça, d'habitude, les économistes, le au jour le jour, sont pas super à l'aise avec ça, mais voilà, ça fait partie du personnage aussi. Excellent. Donc, on va faire une courte pause musicale pour aller rejoindre notre premier invité ce matin. On va décanter l'élection américaine aussi. On va parler, parce que c'est vraiment le sujet de l'heure, on va parler de d'autres petits sujets de l'actualité au courant de cette émission-ci. Restez avec nous sur les ondes de CFAQ 88.3. C'est le 9 jusqu'à 11h.